Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateur. Des oreilles d'auditeur. Soyez toutes oui, non ?
Non.
L'avorton. On ne se voit jamais assez tel que l'on est.
Et l'on ne sait jamais trop discerner ceux qui nous paraissent inférieurs et ceux qui semblent au-dessus de nous.
Pour moi, j'exagérais la certitude d'être plus mal que tous les autres.
Il est vrai que je ne suis pas né peau de fer, mais plutôt peau de terre.
Seulement, je me suis cru de verre, de cristal même. Et cela a été excessif.
Je me rabaissais.
Souvent, je me disais
« Passons un peu mes qualités en revue. »
Donc, fort physique ?
Zéro.
Je suis petit,
contrefait,
rachitique,
les jambes et les bras comme des cure-dents.
Une araignée.
Intelligence ? Pas beaucoup au-dessus de zéro, puisque, entre tant de métiers, je ne suis pas arrivé plus haut que celui de plongeur dans un hôtel.
Beauté au-dessus de zéro. J'ai une figure longue et jaune, des yeux couleur de chien errant et un grand, gros nez qui paraît faire la face du double de la mienne.
Un nez qui semble vouloir se recourber, mais dont la pointe se retourne comme le museau d'un lézard aux aguets.
Autres qualités telles que le courage,
vivacité,
charme personnel,
amabilité,
mieux vaut pas en parler.
Bien entendu, avec de telles constatations, je me gardais bien de faire la cour aux femmes.
La seule que j'ai tenté d'aborder, une camériste de l'hôtel, m'avait remis à ma place avec le qualificatif qu'il fallait.
Avorton !
C'est pourquoi, peu à peu, je m'étais convaincue que je ne valais rien et que le mieux pour moi était de rester bien tranquille dans mon coin pour ne porter ombrage à personne.
Si vous passez dans les premières heures de l'après-midi, dans la rue qui est derrière l'hôtel où je travaille, vous verrez une grande rangée de fenêtres s'ouvrant à fleurs de terre, d'où monte une forte odeur de vaisselle.
En plissant les yeux pour mieux voir dans l'obscurité, vous verrez sur les tables et le marbre de l'évier des piles et des piles d'assiettes montant en tour jusqu'à hauteur du plafond.
Eh bien, c'était là mon coin, le coin de vie que je m'étais choisi pour être oublié d'autrui.
Mais quand on parle de la fatalité,
je pouvais m'attendre à tout sauf à ce que, dans ce coin, je veux dire dans cette cuisine, quelqu'un vienne me surprendre, me cueillir comme une fleur qui se tient cachée dans les herbes.
Ce fut Ida, la nouvelle plongeuse qui prit la place de Judith quand celle-ci devint enceinte.
Ida est parmi les fans ce que je suis parmi les hommes.
Un avorton.
Comme moi, elle était petite.
Contrefaite.
Maigrichonne.
Insignifiante.
Mais agitée.
Vive.
Gaie.
Un vrai démon.
Nous devînmes rapidement des amis du fait que nous nous trouvions debout devant les mêmes assiettes et la même eau grasse.
Et puis, d'une chose à l'autre, elle s'arrangea pour que je l'invite à aller avec moi au cinéma.
Je l'invitais par politesse. Et je fus stupéfait quand, dans l'obscurité de la salle, elle me prit la main, glissant ses cinq doigts entre les miens.
Je pensais à une erreur et tentais même de me libérer. Mais dans un murmure, elle me pria de ne rien faire.
Quel mal y avait-il à se serrer la main ?
Puis, à la sortie, elle m'expliqua qu'elle m'avait remarqué depuis longtemps, depuis le jour même où elle avait été engagée à l'hôtel.
Et que, dès lors, elle n'avait cessé de penser à moi.
Elle espérait que j'avais un peu d'affection pour elle, parce que, sans moi, elle ne pouvait vivre.
C'était la première fois qu'une femme, fût-ce une femme comme Ida, me disait de telles choses, et je perdis la tête.
Aussi, lui répondis-je tout ce qu'elle voulait bien, et bien plus encore.
Mais je restais profondément étonnée, et bien qu'elle continuât à me répéter qu'elle était folle de moi, je n'arrivais pas à m'en convaincre.
Aussi, quand nous sortîmes de nouveau ensemble, je me repris à insister, un peu pour le plaisir de l'entendre, un peu aussi par incrédulité.
Dis-moi, puis-je savoir ce que tu trouves en moi? Comment tu fais pour m'aimer?
Le croiriez-vous?
Ida se suspendit de ses deux mains à mon bras, leva vers moi un visage ravi et me répondit.
Je t'aime parce que tu as toutes les qualités. Pour moi, tu es la perfection sur terre.
Toutes les qualités? Répétai-je incrédule. Eh bien moi qui ne m'en doutais pas.
Oui, toutes, et d'abord tu es beau.
Une envie de rire me prenait, je l'avoue. Et je protestais, beau, moi? M'as-tu bien regardé?
Comment si je t'ai regardé? Je ne fais que cela.
Mais, et mon nez? L'as-tu jamais regardé, mon nez?
C'est le genre de nez qui me plaît, répondit-elle,
en me prenant le bout du nez entre ses deux doigts et le secouant comme une clochette.
Ce nez, pour ce nez, je ne sais pas ce que je ferais.
Et elle ajouta,
et puis, tu es intelligent.
Intelligent, moi? Ils me traitent tous de nigauds.
C'est la jalousie qui les fait parler,
répondit-elle avec sa logique féminine.
Mais tu es intelligent, très, très très. Quand tu parles, je reste là à t'écouter bouche bée. Tu es la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée.
Tu ne me diras pas pourtant, repris-je au bout d'un moment, que je suis fort. À cela, tu peux pas le dire.
Si ?
Fit-elle tout excitée.
Tu es fort, très très fort.
C'était si inattendu que je restais sans réplique. Elle reprit alors.
Et puis, veux-tu que je te dise ? Tu as un de je ne sais quoi qui me plaît.
Et qu'est-ce que ce je ne sais quoi ? Peut-on savoir ?
Que te dirais-je ? Peut-être ta voix, ton expression, peut-être tes gestes. Bien sûr, c'est quelque chose que nul autre n'a comme toi.
Naturellement, les premiers temps, je ne la crus pas. Et je me faisais répéter ses appréciations pour le seul plaisir de les confronter avec ce que j'avais toujours pensé de moi-même.
Et puis, les jours passants, je commençais, je le confesse, à me monter la tête. Il m'arrivait de me dire...
Et si c'était vrai?
Non que je crusse vraiment être matériellement différent de ce que j'avais toujours pensé être jusqu'ici.
Mais la phrase d'Ida sur le
« je ne sais quoi »
me laissait perplexe.
À n'en pas douter, la clé du mystère était là.
C'est pour ce
« je ne sais quoi »
je le savais, que les bossus, les nains, les vieillards, les monstres, parfois même plaisaient aux femmes.
Pourquoi n'aurais-je pu plaire, moi qui, après tout, ne suis ni bossu, ni nain, ni vieux, ni monstrueux?
Un jour, nous décidâmes, Ida et moi, d'aller voir un cirque qui avait planté sa tente en face de la promenade archéologique.
Nous étions fort gais tous les deux. Quand nous fûmes sous la grande tente du cirque, aux places populaires, nous nous assîmes serrés l'un contre l'autre, nous tenant par le bras.
À côté de moi était assise une grande femme blonde, jeune et florissante, et une place plus bas, son compagnon, un jeune homme brun, grand et fort lui aussi. Un type de marinier ou de sportif.
Je pensais que ces deux-là faisaient ce qu'on appelle un beau couple. Et puis, je cessais de m'occuper d'eux pour ne regarder que le cirque.
La piste couverte de sable ocre était encore vide. Mais au fond, dans une tribune, un orchestre de cuivre, les musiciens vêtus d'uniformes écarlates, jouaient sans arrêt des marches belliqueuses.
Apparurent enfin quatre clowns, deux nains et deux plus grands, avec des faces enfarinées, et de vastes pantalons débraillés qui firent tant de cabrioles et tant de farces assaisonnées, de gifles et de coups de pied, qu'Ida s'étouffait presque à force de rire.
Puis l'orchestre attaqua une petite marche allègre et des chevaux entrèrent, six en tout, trois d'un gris pommelé et trois blancs qui firent le tour de la piste gracieusement, tandis que l'écuyer, tout vêtu de rouge et d'or, faisait claquer son long fouet.
Une femme en jupe de tulle et en bas blanc entra en esquisant un pas de danse, s'accrocha des deux mains à la selle d'un des chevaux et s'éleva, remontant, redescendant, pendant que les chevaux tournaient en rond, d'abord au trot, puis au galop.
Le numéro terminé, les clowns revinrent faire leur culbute et se livrer à leur facétie. Et puis ce fut une famille de trapézistes.
Père, mère et enfant, tous trois en maillot bleu pâle, tous trois musclés, l'enfant surtout.
Ils frappèrent dans leurs mains et hop là, les voilà grimpant par une corde à nœuds jusqu'aux fêtes du cirque.
Là, ils se mirent à se renvoyer les trapèzes volants, s'accrochant tantôt des mains, tantôt des pieds, se renvoyant l'enfant comme une balle. Plein d'admiration, je me penchais vers Ida.
Vois-tu, j'aimerais être trapéziste. Ah, j'aimerais me lancer dans le vide et attraper le trapèze avec mes jambes.
Ida, comme d'habitude, se serra contre mon flanc et répondit sur un ton d'abandon. C'est une question de pratique. Si tu t'exerçais, tu pourrais y parvenir.
La femme blonde nous jeta un regard, puis dit quelque chose tout bas à son compagnon et tous deux se mirent à rire.
Après les trapézistes, ce fut le tour de l'attraction numéro 1.
Les lions.
Plusieurs gens en veste rouge entrèrent sur l'arène pour rouler le tapis qui avait servi aux acrobates.
En l'emportant, ils roulèrent dedans comme par mégarde un des clowns. Et de nouveau, Ida, en voyant apparaître au bout du tapis roulé cette figure enfarinée, éclata si fort de rire qu'elle en tomba à demi de son siège.
Avec des gestes rapides, les jeunes gens montèrent au milieu de la piste une grande cage aux barreaux nickelés. Et puis, en un roulement de tambour, apparut par une petite porte la grosse tête blonde du premier lion.
Il y en eut 5 en tout, plus une lionne qui paraissait vraiment féroce et se mit aussitôt à rugir.
Le dompteur entra en dernier. Petit homme, souriant et cérémonieux, en jaquette verte à braques de bourre dorées, il s'inclina devant le public, agitant d'une main un fouet d'écuyer et de l'autre un long bâton muni d'un crochet, semblable à ceux qui servent à descendre les rideaux de fer des magasins.
Les lions tournaient autour de lui en rugissant, tandis qu'il continuait à saluer, calme et souriant.
Finalement, il se tourna vers les lions et au bout de son crochet, les contraignit un à un à aller s'asseoir sur des petits tabourets alignés au fond de la cage.
Les lions recroquevillés, les pauvres bêtes, sur ces tabourets de chat, rugissaient en montrant les dents. Certains, comme le dompteur passait près d'eux, allongeaient une patte qu'il évitait avec une pirouette.
« Oh, ils vont le manger !»
murmura Ida en me serrant le bras.
Il y eut un roulement de tambour. Le dompteur s'approcha d'un lion plus vieux que les autres et qui ne rugissait pas. Il semblait mourir de sommeil. Il lui ouvrit la bouche et introduisit sa tête dans la gueule 3 fois de suite.
Tandis que les applaudissements crépitaient, je dis alors à Ida. « Tu me croirais pas, mais j'entrerai volontiers dans cette cage et je ne craindrai pas de mettre moi-même aussi la tête dans la gueule du lion. »
Pleine d'admiration, se pressant contre moi. « Je le sais, tu en serais capable !»
À ces mots, la femme blonde et le jeune sportif éclatèrent de rire en nous regardant avec attention.
Cette fois, il était impossible d'ignorer qu'il riait de nous. Et Ida, mécontente, me dit à voix basse, « Ils se moquent de nous. Pourquoi tu ne leur dis pas qu'ils sont mal élevés ?»
Mais à ce moment, une cloche se fit entendre et tout le monde se leva pendant que les lions s'en allaient, la tête basse vers la petite porte qui leur était réservée.
La première partie du spectacle était finie.
Nous sortîmes du cirque et le couple marchait devant nous. Ida, furieuse, ne cessait de me dire à mi-voix
« Il faut que tu leur dises qu'ils sont mal élevés. Si tu ne le fais pas, tu es un lâche. »
Et moi, piquée dans mon amour propre, je me décidais à les affronter.
En dehors du cirque, adossé à la tente, il y avait une grande baraque où, en payant, on pouvait visiter le zoo du cirque.
Une rangée de cages d'un côté avec les animaux féroces, et de l'autre, sur la paille en liberté, les animaux domestiques, zèbres, éléphants, chevaux, chiens.
Il faisait très sombre à l'intérieur de la baraque, et comme nous entrions, nous aperçûmes dans la pénombre ces deux-là en train de regarder la cage de l'ours.
La femme blonde se penchait pour regarder l'ours qui se tenait tout pelotonné, dormant bien paisiblement, son dos velu contre les barres, et le jeune homme la retenait par le bras.
J'allais droit à l'homme et d'une voix ferme lui dit
« Dites-moi un peu, c'est de nous que vous avez ri peut-être ?» Il se retourna à peine et répondit sans hésiter.
« Non, nous rions d'une grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf. »
« Et la grenouille, ce serait pas moi par hasard ?»«
C'est la première poule qui chante qui a fait l'œuf. »
Ida me poussa le bras et haussant la voix, je répondis. « Savez-vous ce que vous êtes ? Un ignorant et un grossier personnage !»
Lui, brutalement, répliqua. « Alors quoi ? Voilà que l'époux donne de la voix maintenant ?»
La femme se mit à rire. Et alors, Ida, rouge de colère, intervient.
« Il n'y a pas de quoi rire, hein ? Et puis au lieu de rire, vous feriez mieux de ne pas vous frotter contre mon mari. Vous croyez peut-être que je ne l'ai pas vu ? Oui, elle n'a pas fait autre chose que de se frotter le bras contre lui tout le temps. »
Je fus stupéfait, parce que je m'étais aperçu de rien. Tout au plus, se trouvant à côté de moi, la femme m'avait-elle effleuré du coude ?
Elle protesta en effet, indignée.
« Vous êtes folle, ma fille !»«
Non, je ne suis pas folle, je vous ai vu vous caresser contre lui. »«
Oh, comment ? Comment voulez-vous que je prête attention à un avorton comme votre mari ?»
Et elle parlait avec mépris.
Oh, « Si je devais me frotter à quelqu'un, ce serait à un vrai homme, celui-là. Tenez, c'est un homme !»
Et elle prit le bras de son ami comme on prend un jambon dans une charcuterie pour le montrer à un client.
« Le voilà, le bras auquel je me frotterai. Regardez ses muscles, et s'il est fort !»
À son tour, l'homme s'approcha de moi et me dit menaçant. « Ça suffit maintenant, allez-vous-en, ça vaudra mieux pour vous !»
« Qu'est-ce que vous dites ? »
criai-je, exaspéré, me dressant sur la pointe des pieds pour me mettre à son niveau.
La scène qui suivit, je me la rappellerai toute ma vie.
À ma question, l'homme ne répondit rien. Mais tout à coup, il me prit sous les aisselles et me souleva en l'air comme un fétu.
En face des cages, comme je l'ai dit, sur une litière de paille se trouvaient les animaux domestiques.
Et juste derrière nous, il y avait toute une famille d'éléphants. Père, mère et enfant. Celui-ci plus petit, mais au moins aussi haut qu'un cheval.
Les pauvres bêtes restaient dans l'ombre, oreilles et trompes pendantes, leurs croupes sombres serrées l'une contre l'autre.
Le brave vache, donc, me souleva et brusquement me déposa sur la croupe du plus petit éléphant.
La bête crut sans doute que le moment était venu de se présenter dans le cirque et prit le petit trot, moi en croupe, le long des cages.
Tous les gens prirent la fuite.
Ida courut derrière moi en criant. Et moi, à califourchon sur le petit éléphant, après avoir vraiment tenté de m'agripper à ses oreilles, arrivé au bout du passage, je glissais et tombai à terre, me heurtant la nuque.
Ce qui se passa ensuite, je ne le sais pas car je m'évanouis et, quand je revins à moi, je me retrouvai à l'infirmerie de secours, avec Ida assise à mes côtés, qui m'étreignait la main.
Un peu plus tard, dès que je me sentis mieux, nous retournâmes à la maison sans voir la seconde partie du spectacle. Le jour suivant, je dis à Ida.
Ah, c'est ta faute. Tu m'avais monté la tête en me faisant croire que je t'ai Dieu sait quoi. Au contraire, cette femme disait la vérité. Je ne suis qu'un avorton. Mais Ida me prit par le bras et me regardant.
Tu as été magnifique. Il a eu peur, lui. C'est pour cela qu'il t'a mis sur l'éléphant. Et tu sais, à cheval sur l'éléphant, tu étais épatant. C'est dommage que tu sois tombé.
Ainsi, il n'y avait rien à faire. Pour elle, j'étais une chose.
Pour les autres, j'en étais une autre.
Mais comment savoir ce que peuvent voir les femmes quand elles aiment ?
Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateurs. Des oreilles d'auditeurs. Soyez toutes oui, non ?
Non.